C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Les enquêtes d'Ophélie Dénommée Marchand.
Bonjour Ophélie.
Allô.
Écoute, donc tu as signé dans le média Pivot une enquête sur le monopole des chirurgies d'affirmation de genre au Québec. Alors tu mets en lumière des questions d'éthique, de délai de traitement et sur la place du privé dans nos soins de santé. Ben écoute, c'est quelque chose pour les personnes hein, qui entament une transition nécessitant des soins chirurgicaux. La clinique qu'on appelle GRS Montréal, c'est pratiquement un passage obligé. Pourquoi c'est comme ça?
Depuis 2009, le gouvernement du Québec a décidé qu'il allait donner un monopole à perpétuité à GRS Montréal. Puis, il n'y a pas vraiment de plan pour changer ça, à moins qu'il y ait de la compétition qui apparaisse. Mais la manière que c'est faite, c'est un peu que s'il y a de la compétition, genre des chirurgiens qui veulent offrir ces chirurgies-là, qui veulent pratiquer au Québec, ils doivent passer par GRS Montréal aussi.
Ah oui?
Puis, ça a été théorisé que, ben, de toute façon, ils ont des incentives à rester avec GRS Montréal pour faire plus de profit ou, je sais pas, tu sais, toutes leurs raisons.
Ah ouais, c'est vraiment...
C'est parce que c'est eux qui font tout le training des chirurgiens.
Ça pourrait être une bonne chose que cette expertise-là soit concentrée quelque part, non? Certaines personnes ne pourraient pas croire ça, peut-être?
Ben c'est sûr qu'il doit avoir des aspects positifs à certains niveaux, mais c'est un chef de file mondial
oui.
En matière de chirurgie d'affirmation de genre. Puis c'est pas une mauvaise place en
non.
Soi. Là. Les gens sont très satisfaits d'aller chercher leurs soins là, en général. Mais il y a des endroits où ça accroche, puis la communauté est critique.
Oui, ben justement,
comme
qu'est-ce
dans les soins post-opératoires, surtout.
Justement,
il y a des suivis qui sont lacunaires.
C'est ça qui a suscité ton intérêt, là?
Oui, mais en fait... moi, c'est Pivot, la rédactrice-chef de Pivot, Claire Ross, qui m'a approché pour m'occuper de ce dossier-là parce qu'elle avait essayé de le donner à d'autres journalistes qui ne savaient pas comment l'aborder.
Parce que toi, tu es journaliste d'enquête, d'abord.
C'est ça. Et c'est vrai que c'est difficile comme dossier parce que, puisqu'ils sont privés, c'est très difficile d'accéder à de l'information.
Ah bon?
Ouais.
Pourtant,
si
ils sont
la clinique
par l'État.
Ne veut pas être transparente, c'est presque impossible d'obtenir des infos.
Wow. Alors, c'est exact de dire que c'est le seul endroit dans tout le Canada pour certains types de ces chirurgies?
À travers le Canada, la plupart des provinces vont diriger la patientèle vers GRS Montréal parce qu'ils ont des files d'attente un peu moins longues comparativement à d'autres hôpitaux qui sont publics en général dans les autres provinces pour offrir ces chirurgies-là. Mais je connais pas toutes les raisons possibles, mais il y a quelques autres hôpitaux et cliniques publiques à travers le Canada qui offrent ces soins-là. Et par une entente réciproque, ils peuvent envoyer leurs patients au Québec, mais l'inverse ne se fait pas. C'est-à-dire que les patients du Québec ne peuvent pas aller dans les autres provinces pour aller chercher leurs soins, même s'ils peuvent avoir des méthodes chirurgicales qui sont plus attirantes pour une personne ou une autre. Ou parce qu'ils ont un dossier médical complexe que GRS ne veut pas forcément prendre en main, ils peuvent pas non plus aller voir d'autres chirurgiens, donc ils devraient débourser des dizaines de milliers de dollars de leur poche pour aller chercher leurs soins dans une clinique privée autre que GRS Montréal ou ailleurs au monde en tout cas.
Dans ton article dans Pivot, tu parles d'un modèle de soins à la chaîne. Qu'est-ce que les patients ou patientes t'ont confié sur leur expérience?
Il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes au plan du suivi post-opératoire. Parce que les chirurgies, d'habitude, il y a beaucoup de satisfaction. C'est très élevé, le niveau de satisfaction pour les chirurgies en tant que telles, mais c'est vraiment dans les soins post-opératoires qui s'accrochent plus que d'autres choses. Mais en fait, c'est que il y a GRS Montréal qui offre un peu le même modèle de soins pour chaque individu. Et ça donne l'impression aux gens que peut-être ça contreviendrait à leur droit constitutionnel d'avoir un soin personnalisé. Mais depuis mon enquête, si on va voir sur le site de GRS Montréal, ils ont ajusté leur cadre de marketing en fonction de mon enquête. Mais c'est pas clair s'il y a un impact structurel, systémique, au sein de la clinique suivant mon enquête.
Mais moi, ce que je veux savoir sur les soins post-opératoires, parce que tu as dit, il y a vraiment un problème là. Qu'est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est le fait que quelqu'un peut se faire opérer, avoir une chirurgie là-bas, puis se retrouve peut-être à Sept-Îles ou à Rimouski?
La manière que le modèle fonctionne, c'est qu'eux, ils fournissent la chirurgie, puis ce qui se passe après, c'est un peu la responsabilité partagée du reste du réseau de la santé, puis de soutien spécifique de la personne pour s'en occuper. Mais l'affaire qui arrive, c'est que les spécialisations dans ces soins-là sont très rares. Puis dans ton suivi post-opératoire, justement, si tu habites à Rimouski, ben ton médecin de famille à Rimouski saura peut-être pas comment gérer la situation. Puis souvent, ben les gens se renvoient la balle. Tu vas aller voir ton médecin de famille, puis ton médecin de famille va te dire d'aller voir ton chirurgien. Puis ton chirurgien, il va te renvoyer à ton médecin de famille de toute façon, ou ailleurs en tout cas.
Ah oui. C'est ça qui devient le problème.
Oui, puis on doit un peu devenir nos propres experts de nos propres soins à quelque part pour essayer de déboulonner tout ça ou aller chercher comme dans des forums ou des réseaux informels d'informations entre personnes trans pour se
donc un monopole là-bas. Qui décide, ben oui, on prend ce cas-là, mais là, ce cas-là, on le prendra pas parce que c'est plus compliqué. C'est aussi au niveau du suivi, ben là, débrouille-toi avec ton médecin de famille. Nous, on intervient juste au cas où. Ça commence à être compliqué. Puis là, je vais aller plus loin. La transparence, parce qu'il y a des listes d'attente. On est dans le système de santé du Québec. Les listes d'attente, c'est pas nouveau, mais là, c'est particulier.
Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai eu une chirurgie là-bas, puis ça n'a pas été long, mais c'est parce qu'il y avait une autre personne qui a annulé sa chirurgie, mais j'ai entendu dire que c'était autour de 1 à 2 ans, les listes d'attente. Sauf que mes infos sont pas nécessairement hyper à jour en ce moment, parce que j'ai entendu dire que GRS Montréal a été acheté par quelqu'un en juin dernier. Et ils ont fait des coupures de services depuis.
Ah bon?
Et je ne sais pas si les coupures, tu sais, en lien avec la loi 2 puis tout ça, récemment, a eu un impact sur GRS Montréal.
La loi 2,
je suis pas au courant, mais
c'est la loi.
GRS
ouais.
n'est pas intéressé à parler aux journalistes de manière générale.
Ouais.
Donc, pour moi, ça serait inutile d'aller leur demander de toute façon.
Ouais.
Mais ce que j'ai entendu de gens dans la communauté, c'est qu'il y a eu des coupures dans les formations données à des organismes communautaires, par exemple,
qui accompagnent
les gens à guérir dans leurs soins post-opératoires et tout ça. Donc, c'est inquiétant. Déjà qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, s'il y a des coupures. Mais c'est sûr que la communauté va essayer de s'arranger.
Puis les impacts, parce que tu as parlé à des gens qui ont subi ce genre de choses-là. Des impacts, parce que là, il faut qu'on parle de quelqu'un qui a besoin ou qui demande une chirurgie d'affirmation de genre. Bon, c'est pas toutes les personnes trans qui le demandent, mais ceux et celles et celui qui le demandent, c'est parce qu'ils ont aussi une condition qu'on appelle la dysphorie de genre, de l'anxiété. D'avoir à attendre comme ça, ça ne doit pas aider.
Ah oui,
d'après,
c'est sûr.
D'après les gens à qui tu as parlé, là, comment est-ce qu'ils se sentent ou ce qu'elles se sentent?
Ben, c'est une des grandes inquiétudes, oui, de la patientèle, les listes d'attente. Même pas pour aller chercher des chirurgies aussi à base, tu sais, juste aller chercher ses hormones, c'est compliqué, là. Fait que...
Ah, parce que c'est eux aussi qui gèrent les hormones?
Ben non.
OK.
Ça, heureusement pas, là.
OK.
Mais c'est vrai que GRS Montréal donne des chirurgies qui sont offertes à des personnes cisgenres. Mais qui va les gatekeeper seulement pour les personnes trans. Puis les personnes trans, si on suit la bureaucratie qui est exigée par le gouvernement du Québec, ils doivent absolument passer par GRS Montréal. Mais j'ai entendu de quelques sources qui ont lu mon enquête ou leurs amis ont lu mon enquête et les ont référés à moi, puis ils m'ont fait part du fait qu'ils ont réussi à convaincre leurs médecins dans des hôpitaux publics à avoir des chirurgies d'affirmation de genre sans passer à travers GRS.
Ah oui?
Oui.
Donc, ça peut se faire ailleurs.
Oui, mais le gouvernement, le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient que c'est pas possible de changer le système et qu'il faut absolument passer par GRS parce qu'il n'y a personne d'autre qui est capable d'offrir ces soins-là.
Wow, OK, c'est compliqué, hein?
Oui.
Mais est-ce que, finalement, là, est-ce que briser le monopole là, que le gouvernement a formé, est-ce que ça se peut? Est-ce que le gouvernement est ouvert à ça? Est-ce que ça pourrait se faire?
Non, ils ne sont pas ouverts. J'ai essayé de les presser là-dessus, bien comme il faut. Là. Ils ne veulent rien savoir.
Wow. Alors, cette enquête-là a été publiée, ça fait quand même quelques temps, en mi-2025. Il y a eu des développements depuis?
Oui, c'est ça. Au niveau du marketing de GRS Montréal, ils ont vraiment ajusté ce qui est sur leur site web pour justement dire qu'ils vont offrir un suivi personnalisé à chaque individu, par exemple. Puis ça, c'était pas là avant. Puis c'est parce que mon enquête a révélé justement que le fondateur de GRS Montréal, Pierre Brassard, qui a dit « Moi, je fais pas du sur-mesure. »
Ah bon?
Oui.
Fait que c'est du travail à la chaîne,
puis
quoi.
C'était déjà un peu connu avant que... Je sais pas, il y avait une entrevue de Kate Lessard il y a une dizaine d'années, là. Peut-être un peu moins que 10 même, mais elle disait que tu t'en vas à GRS Montréal, puis ils te font un vagin de pornstar, puis ça finit là, genre, t'as pas d'autre choix pour te donner un peu une illustration du truc, là.
Ouais.
Mais...
on parle quand même de chirurgie. C'est quand même assez dur, une chirurgie de réaffirmation ou d'affirmation de genre. C'est quand même pas facile. C'est très douloureux aussi.
C'est un processus de guérison hyper exigeant. Ça prend un an, guérir de ça, des fois plus, dépendamment de...
Tu me permets de poser la question parce que tu l'as dit tout à
l'heure. Mais moi, j'ai eu une vaginoplastie. Puis c'était difficile. T'en parler, là.
Ça a fait mal? C'était difficile, la guérison?
La chirurgie en tant que telle, tu sais, c'était vraiment smooth, là. Aller là, tu sais, avoir la consultation préopératoire, ça se fait en 2 heures, là, tu te réveilles, puis comme tout est beau, là. T'es tellement drogué que tu sens aucune douleur, mais... C'est les jours après que c'est vraiment rough, là, puis les mois après que tu dois faire tes dilatations pour maintenir ta cavité et tout ça. Ça, c'est vraiment challengeant, là.
Puis toi, tu as eu l'expérience des soins après-service, mais tu étais ici à Montréal, donc c'était peut-être plus facile, là.
Mais c'est ça, si tu viens d'une région, là, ça doit être vraiment plus difficile de venir ici puis faire tout ça. Parce que moi, tu sais, j'avais des amis qui étaient là pour me supporter directement, là. Mais comme, si tu viens d'ailleurs pour avoir ta chirurgie puis tu connais personne à Montréal, ça doit pas être le fun, là.
Wow.
Parce que moi, tu sais, je me réveille dans ma chirurgie, mon chum, il est là, la vie est belle, là, mais comme, je dois imaginer que c'est pas facile pour tout le monde. Mais oui, dans mon enquête, il y a la directrice des médecins pour le régime public du Québec qui disait que si on n'avait pas ce monopole privé-là, ça serait possible de faire voyager les chirurgiens dans les régions pour offrir les chirurgies aux gens pour faciliter l'accès.
Oui.
Oui.
Ah oui, ça rendrait la fille plus facile aux patients et patientes. Ouais, là.
Parce que là, c'est aussi aux patients d'assumer les frais de transport pour venir ici et tout. Là.
Ouais. Puis ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher.
Ben, déjà, être trans, c'est pas donné. Là.
On l'a dit en souriant, mais c'est pas
drôle.
Il y a
quelqu'un qui m'a déjà dit « Être trans, c'est comme être endetté. C'est une dette, être trans. » Puis c'est vrai. C'est comme, t'sais, mes hormones, à chaque mois, ils me coûtent comme 50-60$.
Wow.
C'est pas donné.
Ben, Ophélie Denomé-Marchand, merci beaucoup d'abord pour cette enquête et aussi pour ton témoignage et à la prochaine fois. Merci beaucoup.
Merci à vous.